Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage. 2 heures d'une douce allégresse informative pour vous, d'un cruel pugilat pour eux. Désormais, vous le savez, les journalistes d'Europe 1 sont en compétition. Chaque après-midi, un seul sera élu chroniqueur du jour, celui dont le sujet vous aura le plus surpris, le plus captivé. Des journalistes qui, peut-être, c'est vrai, avaient tendance à se la couler douce ces dernières années. Comme l'a habilement souligné notre invité d'hier, Patrick Timsit, il était temps qu'ils se remettent au boulot.
Au lieu de se branler à la machine à café.
Oui, ne serait-ce que pour des raisons d'hygiène au niveau de la Nespresso, on croyait que c'était du taf. Bref, nous voilà partis pour 2 heures de découverte éclectique en compagnie cet après-midi d'un immense acteur qui va vivre une expérience rare, unique dans sa carrière. La première émission où on ne va pas lui parler de la carioca. Bonjour Gérard Darmon.
Bonjour.
C'est un cadeau qu'on a décidé de vous faire, pas de happening carioca. Alors ça s'est joué à pas grand chose, hein. La jeune femme qui rougit bêtement devant vous, c'est Eva Rock, notre spécialiste média et rédactrice en chef. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Gérard Darmon.
Bonjour Eva.
Eva qui m'aide donc à préparer cette émission, et c'est là que vous l'avez échappé belle Gérard. Je lis son dernier mail, hein, c'est véridique, intitulé, je cite, « Idées son pour Darmon ». Attention.
Oh mais vous êtes
coucou,
vache
Matt, voici quelques pistes sonores pour Darmon. Carioca avec Shabba, oh bonne idée. Doigt whisky si t'es de la peur. Et tu bluffes Martoni. Gérard, j'imagine que ça doit être relou à la longue qu'on vous ressort toujours les mêmes sons. C'est pourquoi je vous prie de l'excuser, elle a été sotte.
Nous avons été sottes, toutes les deux.
Vous êtes trop bonne, trop bon. Gérard Darmon,
quel enfoiré.
On change de tonalité puisque demain vous serez à l'affiche d'un film que j'ai envie de qualifier d'OVNI. Vous êtes jeune, vous êtes beau. Premier film de Franck Hindon et sans flagornerie, rien que le pitch, hein, on va l'évoquer. J'imagine que ça a été un coup de foot dès le scénario, non, ce film.
Exactement, ça a démarré là. Ça a démarré sur la qualité du scénario.
On donne le pitch en deux mots, Eva.
Ah, c'est moi qui m'y mets.
Oui, s'il vous plaît.
Gérard Darmon, vous incarnez Lucius, un septuagénaire.
Comme
on ne connaît,
voilà,
connaît pas son âge exact. Il a un peu des problèmes d'argent. Il vit très modestement. Et puis, il va rencontrer un homme qui va lui faire une drôle de proposition. Des combats de boxe entre vieux. Je dis de boxe, des combats tout court, pour essayer d'arrondir, clandestin évidemment, pour arrondir les fins de mois. Et ça se passe dans des sortes de l'underground, derrière une boîte de nuit en
ça
fait.
Ça se passe dans l'underground, comme vous le dites, Eva, tout à fait,
ouais.
C'est ça.
Les bas-fonds d'une boîte de nuit où des jeunes gens très beaux vous regardent combattre.
Ouais. Et donc coup de foudre dès le scénario.
Coup de foudre dès le scénario, oui, cette foule qui nous regarde, c'est une foule un peu décadente. Habillé en smoking et robe longue et qui fume cigarette, fume du champagne et qui parie sur des vieux avec beaucoup de cynisme. Donc c'est à la lecture du scénario, très franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un scénario aussi bien écrit, aussi fort, donc la question ne s'est pas posée.
Un film étonnant, on va en parler durant ces 2 heures. Vous êtes jeune, vous êtes beau, ça sort demain en salle. Mais d'abord, Gérard Darmon, je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition aujourd'hui. À ma gauche, sa subtilité n'a d'égal que sa pilosité. Il est le monsieur cinéma d'Europe 1 et sa vision artistique sur notre émission compte beaucoup pour moi, même si elle a ses limites liées à ses centres d'intérêt.
Vendredi, on a peut-être fait la meilleure émission depuis le début, quoi.
C'est parce qu'on parle de cul, quoi, tout à
l'heure.
C'est pour ça. Et bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Dans la série La vie est dure, vous venez du week-end à Deauville où vous avez visionné des bandes-annonces, c'est ça?
C'est une manière de présenter les choses un petit peu, mais
truquée. Faites un beau
métier. Oui, effectivement, il y avait le congrès des éditeurs de films en fin de semaine dernière. On a vu les 250 bandes-annonces des films les plus attendus dans les mois qui viennent.
Ah, donc vous êtes en mesure de nous dire les événements cinématographiques de
2020. Ce qui fait envie, en tout cas.
Ce qui fait envie. À ses côtés, Gérard Darmon, il est censé incarner l'esprit rock et rebelle d'Europe 1. Le problème, c'est qu'il vit à Malakoff, roule en Prius, et les rares fois où on le sent prêt à péter les plombs, il s'exclame timidement.
J'embête le système, voilà.
Ouais, super. Autant vous dire qu'il n'a pas ruiné beaucoup de chambres d'hôtel. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous avez actuellement 7 points, ce qui fait de vous l'équivalent de Amiens en Ligue 1 à peu près.
Avec le ventre mou,
ce qui est pas mal.
Ce qui est pas mal, Gérard, c'est vrai. Avec quel sujet de dingue allez-vous réussir à remonter au classement aujourd'hui?
La grosse cavalerie, je vais vous sortir les Beatles. C'est les 50 ans de l'album Abbey Road.
Ah oui.
Et on va rétablir la vérité une fois pour toutes.
Et vous pensez que vous allez apprendre quelque chose sur les Beatles à Gérard Darmon?
J'en doute.
Vous êtes ambitieux. Voilà pour le programme. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc l'immense Gérard Darmon qui nous accompagne cet après-midi pour un film vraiment étonnant. Vous êtes jeune, vous êtes beau. 20 ans après Fight Club, cette fois ce sont des vieux qui se bastonnent pour se faire un peu d'argent et boucler leur fin de mois. C'est tellement surprenant, des combats de seniors, que je me suis demandé, peut-être bêtement en regardant le film, est-ce que ça existe? Est-ce que le réalisateur a vu ça quelque part dans le monde? Je ne sais pas, évidemment c'est clandestin et c'est un interdit, mais comment lui est venue cette idée?
J'ai eu la même curiosité que vous et j'ai rien trouvé. Fort heureusement,
parce que
franchement, ce serait lamentable quoi, si ça existe. Il faut le dénoncer. Et pourtant, je ne suis pas trop dénonciateur, mais là, mais là, là oui.
Alors, ouais. Ce film, c'est aussi le portrait d'une grande solitude, celle de personnes âgées, précisément deux solitudes parallèles, celle de Lucius et de Mona, sa compagne, incarnée divinement, il faut le dire, par Josiane Balasko. Ouais. C'est un film qui dénonce aussi.
Oui, c'est un film qui montre, donc je ne sais pas si ça dénonce, en tout cas ça montre sans effet de manche, voilà. Mais c'est pas un film sur la vieillesse, hein. On suit des personnages qui sont vieux. Moi j'aime, contrairement à ce qui se fait en ce moment, j'aime bien le mot vieux, moi. J'aime pas senior. Senior, je trouve que c'est quand on joue en ligue.
Eva, vous avez été intriguée par ce film.
J'étais intriguée.
Vous m'avez passé un coup de fil. Ouais. Vous m'avez dit regarde-le vite.
Oui, regarde-le vite. Ouais. C'est marrant parce que vous dites que c'est pas un film sur la vieillesse, mais quand même, il y a une phrase que dit Mona au bout d'un moment, au début du film, elle dit c'est une honte ce pays qui laisse mourir les vieux comme ça.
Oui.
Voilà. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi un aspect social dans le film.
Mais c'est pas si vous voulez une espèce de docu-fiction sur la vieillesse, l'état des vieux en France.
Tout à fait.
Voilà, ce sont deux personnages tout à fait indépendants et libres, j'allais dire.
Et c'est un film, il faut le dire aussi, merveilleusement, comment dirais-je, la photo est très
belle.
Je crois que le réalisateur vient de la photo.
Il vient de la photo, il a fait beaucoup de photos chez lui en Chine. Ils sont en France depuis 20 ans, je dis ils sont parce que la productrice, qui est sa femme, donc c'est un couple très, très dynamique et très, très talentueux, je trouve. Il y a quelque chose de Hopper un peu dans sa photo,
dans
des clairs
obscurs,
des jaunes comme ça, c'est très très joli, c'est très très beau.
Il est à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau, un film différent et fascinant, vous l'aurez compris. Gérard Darmon nous accompagne jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue et l'échauffement est terminé. Les gladiateurs vont entrer dans l'arène. Qu'on huile, Mathieu Charrier.
J'aime quand on m'enduit d'huile.
À suivre, il a visionné pour vous ce week-end plus de 250 bandes-annonces de films. Bon, on va pas le plaindre non plus, il y avait des petits fours. Mais de retour de la grande réunion des exploitants de Deauville, Charrier nous dévoile en avant-première les films qui vont marquer 2020. Gérard Damon, je vous voyais regarder la caméra. Oui, je dois vous informer que cette émission sera entièrement filmée.
Ça va pas être possible, il est pété le truc. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué.
Oui, bon, tant pis, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous espériez entendre un jour une émission qui aurait l'exigence éditoriale d'envoyé spécial, le côté festif et débonnaire d'Interville en plus. Bienvenue dans l'équipe est sauvage, la grande compétition des journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi se bastonnent à coups de chronique pour savoir lequel d'entre eux est le meilleur. Et en parlant de meilleur... J'ai senti Gérard Darmon entamer une révérence lorsqu'il est entré dans ce studio tout à l'heure. C'est normal, il est quand même vice-chef adjoint délégué par intérim du service culture d'Europe 1. Mais Mathieu Charrier, c'est avant tout ce qu'on appelait, avant l'affaire Weinstein, un homme à femme. Notre invité lundi dernier, la chanteuse Rose, en a fait les frais.
C'est bon là ?
Un peu plus fort du coup,
un peu plus fort, hop.
Encore un, voilà, très bien.
C'est bon là ?
Ah ben ouais, mais alors ça bouge ?
Ah, c'est pour ça.
Oh putain, mon Dieu.
Ah, faut remonter sur le...
Là, c'est monsieur qui gère. Hein.
Oui, bon, ça va, ce que vous faites avec nos invités. Gérard Darmon, je vous présente Mathieu Charrier. Mathieu Charrier, vous avez visionné 250 bandes-annonces de films.
Oui, vous voulez savoir.
Et
déjà...
Donnez-nous les 10 meilleurs, ça suffira.
Les 10 meilleurs. Déjà, il y a plusieurs comédies dont on va entendre parler, dont la salle a beaucoup réagi. En fait, pour expliquer en deux mots, c'est donc le congrès des exploitants de salles. C'est-à-dire que vous avez tous les exploitants de tous les cinémas français qui sont invités à Deauville par les éditeurs de films. On leur montre tous les films qui vont sortir dans les prochains mois, toutes les bandes-annonces, en leur disant prenez-les pour les diffuser dans vos films. Donc il y a un gros enjeu parce que c'est en partie grâce à cette journée que vous allez avoir ou pas dans le film à côté de chez vous tel ou tel film plutôt qu'un autre. Donc c'est vrai que je voyais par exemple le film de Gérard Darmon, demain il sort sur un certain nombre d'écrans parce que
ça s'est joué ce jour-là.
Et ça s'est joué en partie sur ce congrès. Alors sur les 250 bandes annonces, il y en a une qui a fait mourir de rire toute la salle et j'avoue qu'on se demande ce que ça va donner. C'est un film qui s'appelle Tout simplement Noir. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film-là.
Non.
C'est un film incroyable où c'est un acteur-réalisateur qu'on connaît pas, un noir donc, qui veut organiser une marche contre le racisme et qui va aller voir plusieurs acteurs connus, Joy Starr, Fabrice Eboué, Jonathan Cohen, Rabzi Bedia, pour leur dire les gars, venez marcher avec moi, il faut qu'on organise un truc. Sauf qu'entre les Noirs, les Juifs, les Arabes, personne ne va s'entendre. Et ça donne des scènes, je vous assure, on a eu plein de petits extraits pendant le congrès, ça donne des scènes absolument incroyables. Ça sort en avril prochain. Ça peut être le film un peu phénomène de l'année, vous savez, à la Bon Dieu. Voilà.
Et ça sort quand il y a une date ?
Avril prochain, je viens de vous dire. Oui. Si vous m'écoutez, ça sera plus simple.
Et vous donnez tellement d'infos, vous parlez tellement vite, vous parlez plus vite que moi. C'est vraiment record, on n'a jamais vu ça.
Ensuite, il y a une autre comédie qui a fait beaucoup, beaucoup rigoler. C'est une comédie qui s'appelle Forte, portée notamment par Valérie Lemercier. Et Mala Bedia, qui est la sœur de Ramzi Bedia, qui est une jeune humoriste un peu enveloppé, qu'on commence à voir beaucoup dans pas mal de scènes, et qui veut se mettre au pole dance, en résumé. Donc elle, elle est venue présenter le film dans la salle, elle a fait du pole dance, elle a rigolé. Enfin bon, là aussi, fort, je crois que c'est pour mars prochain. Je pense que vous allez en entendre parler. Et puis une autre comédie qui fait envie, là, ça c'est un petit peu plus proche de nous, c'est en novembre prochain, ça s'appelle Joyeuse retraite avec Michel Larocque et Thierry Lhermitte. Et vous savez, c'est ces gens qui partent à la retraite, qui se disent, ah, c'est bon, eux, ils veulent aller s'installer au Portugal. Ils disent, c'est bon, on va se la couler douce au Portugal. Sauf que pas du tout, parce que c'est le moment où vos enfants vous disent, ah ben tu fais plus rien le mercredi, tu vas t'occuper de tes petits enfants. Ah ben tu sais, la dernière, elle est malade, tu peux venir la garder une semaine à la maison. Voilà, c'est toutes ces comédies-là qui font un peu envie. Et par ailleurs, je le glisse, on a appris que venait de commencer l'écriture de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, numéro 3. Là, c'est parti. Je pense que
c'est lancé.
On est parti pour une petite série de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Dites-moi, j'y pense comme ça, incidemment, vous n'avez pas de nouvelles du prochain OSS ?
Ah non, pas encore. Ça, ils nous ont pas montré d'image. Ah. Le tournage devrait commencer là, dans les semaines qui viennent.
Alors, Gérard Darmon nous dit j'adore, mais surtout, que foutent les réalisateurs de OSS ? Pourquoi Gérard Darmon n'est pas dans OSS ? Il serait quand même exceptionnel dedans.
J'adorerais, oui. Mais en plus, avec Jean, avec Dujardin, on s'est promis de travailler ensemble très, très vite, très bientôt. Il faut un bon sujet. Là, je pense qu'il y en a bien. Après, ça dépend des réalisateurs, des producteurs.
Pour le quatrième, si le 3 marche bien.
Vous avez oublié dans vos bandes annonces celle de Kéron qui sort en avril, Brutus, avec
Pascal
Lhermitte qui m'y a renvoyé.
C'est vrai, exact. Voilà. Nous, au film de Kéron, après les mauvaises herbes.
Qui sort exactement.
Mais il y en avait 250, je peux pas tous les faire.
Si. Vous venez quand même de perdre 2 points, Mathieu Charrier.
Alors, Mathieu
Charrier, voilà, lui, vous pouvez, vous pouvez mettre une croix.
C'est dommage
parce
qu'il y avait un petit museau d'avance. Et là, pour la dernière ligne droite, le dernier Open Beach.
Ouais. Si j'étais un animateur bienveillant, je me contenterais de vous féliciter, Mathieu. Mais vous me connaissez, voici la question vache de l'autre chroniqueur. Jean-Philippe Ballas.
Europe 1 vous paye pour voir des grandes annonces, Mathieu Charrier ?
Alors vous savez quand même que, non, parce que c'est la grande blague, quand je rentre de ce congrès, ah bah ça va, t'as rien foutu à la ville. Mettez-vous dans une salle enfermée avec 1000 exploitants de salle pendant des heures et des heures à regarder 250 bandes annonces à la suite. Et vous verrez qu'on devrait doubler mon salaire.
Oh là là, oh
le pauvre.
Vous m'avez pas lancé, mais il y a plein d'autres films attendus aussi. Il y a Lambert Wilson qui va incarner le général de Gaulle, il y a le nouveau James Bond, il y a Mission Impossible 7 et 8, il y a Le Mans 66 sur la rivalité de Ferrari.
Mais calmez-vous,
on sait que vous y étiez.
Vous avez bien bossé, on le dira au DRH d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas, une réaction chic et sport à la chronique de votre concurrent quand même. Quelle ordure et quelle ordure. Heureusement que notre invité est plus gentleman que vous. Sa voix comptera triple en fin d'émission. Il est à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau. Gérard Darmon est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, la compétition continue pour les journalistes d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas tâchera de nous apprendre quelque chose de nouveau sur les Beatles. Va-t-il y parvenir ? Comme disait Patrick Timsitier.
J'ai un mini doute.
Nous aussi, ça sera juste après Marc Lavoine. Morceau d'amour sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Découverte, bonne humeur et castagne journalistique, vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission hybride qui chérit votre cerveau sans pour autant snobber vos zygomatiques. Et justement, on est vraiment à la frontière cet après-midi avec notre invité Gérard Darmon, un des acteurs qui nous a fait le plus marrer et qui nous revient dans un film très sombre, voire dur, qui en interview rend ce passage du drame à la légèreté particulièrement complexe pour l'animateur, comme notre confrère d'RFM Pascal Nègre. Disons que c'était pas facile d'enchaîner avec un disque.
Voilà, donc, mais avec cette femme avec Josiane Balasco qui joue Mona dans le film,
qui est formidable,
mais elle est magnifique. Ouais. C'est la femme de sa vie, c'est aussi la femme de sa mort,
c'est vrai. Allez, on se fait une pause musicale. Phil Collins.
Youhou, la fête continue, Gérard.
Philippe Collin.
Non, mais c'est vrai que ce film est extrêmement fort et aussi extrêmement sombre. On rappelle, c'est l'histoire d'un septuagénaire très, très modeste, très seul, qui, pour boucler ses fins de mois et payer sa future maison de retraite, va accepter de participer à des combats de seniors clandestins. C'est un film qui montre une vieillesse à la dérive, larguée, paupérisée. Surtout, c'est un film qui parle des gens qui n'ont plus les moyens de se payer une maison de retraite, en fait, et qui sont prêts
à tout. La solitude. Ça parle aussi de ce dont on parle moins souvent au cinéma, c'est-à-dire les rapports amoureux des vieux, du troisième âge. Mmh. Une histoire d'amour, même une scène de lit. C'est rare de voir les vieux faire l'amour au cinéma.
C'est encore plus rare de vous voir faire l'amour au cinéma.
Vous qui détestez les scènes de nu, alors au sens propre et au sens figuré,
c'est vrai.
On voit vos fesses, mais au sens propre et au sens figuré, j'étais très étonnée que vous mettiez aussi à nu, à la fois physiquement.
Mais parce que je trouve que ça servait complètement le personnage, et j'ai pris 10 kilos pour faire ça. Il fallait vraiment qu'il y ait une déchéance physique, que toutes les chairs tombent. J'ai pas eu à me forcer beaucoup. Et puis, voir de dos comme ça, une espèce de pauvre mec dans un vestiaire, je trouvais ça plutôt fort et il fallait le faire.
Et quand vous vous êtes vu, quand vous avez vu la première projection
Pour moi, c'est irregardable. Hein,
et
oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est compliqué.
Mais déjà, vous avez du mal à vous regarder en temps normal dans les films, apparemment.
C'est vrai, vous, c'est vrai, mais c'est vrai, vous savez, au cinéma, on se voit de dos, de profil. Oui. On ne se voit jamais comme on se voit dans la vie. On se voit marcher. C'est compliqué, moi. C'était irrespirable pour moi. Et depuis toujours. Et ça ne s'améliore pas avec le temps.
Et vous avez, vous, un rapport particulier au temps, puisque vous l'avez raconté souvent, mais il faut redire, vous êtes né un 29 février. Oui. Et donc, par conséquent, vous n'avez pas encore tout à fait 18 ans.
J'ai 17 ans et demi. 17 ans et demi.
Mais ce n'est pas anecdotique pour vous,
ça ne l'était pas quand j'étais môme. Hein, que j'avais vraiment l'impression de ne pas exister, de ne pas avoir de jour anniversaire.
On ne vous fêtait pas votre anniversaire le 28 ?
Vous êtes né quel jour ?
Le 13 novembre.
C'est pas on vous le fête le 12 ?
Non.
On vous le fête le 14. Bon alors, de quoi tu parles ? C'est marrant ça.
Il est à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau, premier film de Franchine Dunn. Il donne la réplique à Patrick Bouchité et Josiane Balasco, qui est formidable dans le film. Gérard
Victor
Darmon.
Belmondo.
Et Victor Belmondo.
Et Denis Lavant.
Le problème, c'est que là, en fait, on est dans un teasing. Si je les cite tous, c'est va. Non, mais on s'en sort pas, mais c'est vrai qu'on les embrasse tous. Gérard Darmon est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue au service évidemment de votre culture G. Et vous pensiez tout connaître des Beatles. Du surnom de John Lennon à l'anecdote de Ringo Starr dont on entend la batterie qu'à partir du troisième couplet sur Hey Jude parce qu'il était aux chiottes, en passant par la pire reprise de Let It Be jamais enregistrée, celle d'Eva Rock, ivre à l'EVG d'une copine. Bien picolé ce soir-là. Et pourtant, notre expert rock, Jean-Philippe Ballas, en est convaincu. Taisez-vous, Eva. Les Beatles ont encore des secrets pour vous. Il arrive, et comme il le dit aux jeunes filles qu'il rencontre en boîte de nuit après avoir renversé le GHB dans leur verre.
Je vous ai préparé un petit mix.
A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour exercer vos zygomatiques sans pour autant éteindre totalement votre cerveau. 2 heures également d'une féroce compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité arbitre. Je ne voudrais pas qu'il s'imagine que je le dis tous les jours, mais vraiment, je suis très ému et impressionné de rencontrer aujourd'hui Gérard Darmon. Et si vous ne me croyez pas sincère, passez-moi au détecteur de mensonges.
Ça va pas être possible. Il y a Bestel qui a voulu essayer un truc. Il a branché le détecteur sur sa CB.
Gérard Darmon, ensemble cet après-midi, on parle de Vous êtes jeune, vous êtes beau en salle de. Demain, un film dont rien que le pitch, des combats de seigneurs clandestins façon Fight Club, va faire du bruit. Quelle a été votre première réaction quand vous avez reçu ce scénario sur l'idée des combats de seigneurs, avant même de nous parler de la qualité de l'écriture du film? Est-ce que le pitch vous a pas quand même un peu rebuté dans un premier temps? Vous n'êtes pas dit c'est un peu gros?
Non, pas du tout. Et puis, je trouve que c'est... Bon, on en parle beaucoup, c'est vrai, de ces combats de seigneurs, mais c'est quand même pas le sujet principal du film. C'est pas ça le sujet. C'est presque, voilà, c'est une extrapolation, ça, c'est autre chose. Donc c'est pas tellement ça qui m'a interpellé, qui m'a donné envie de le faire, ce film. C'est surtout la qualité de l'écriture et puis des situations, puis la force du personnage, et puis cette espèce d'instantané comme ça, un peu de la société, des vieux où ils en sont, leur solitude, la solitude. Il y a beaucoup de sujets, ça, mais ça m'a... Je me suis dit, tiens, c'est bien qu'entre deux gros films de comédie, faire une chose comme ça, c'est formidable. Vraiment, c'est une chance. C'est la liberté.
Et je pense que vous avez raison. Le film s'intitule Vous êtes jeune, vous êtes beau, on continue d'en parler. Mais vous connaissez la compétition, Gérard, elle n'attend pas. Voici notre deuxième concurrent aujourd'hui. Vous le savez peut-être, Gérard Darmon, mais actuellement, Europe 1 poursuit un objectif de rajeunissement de son public. D'où Jean-Philippe Ballas, le rocker, le yéyé, pour ne pas dire le zazou de la bande.
Je suis cool, je suis branché, je parle aux jeunes. Hein.
Oui, voilà, il parle aux jeunes. Vous êtes complètement batte, Jean-Philippe. Tellement que ce matin, vous nous parlez des Beatles.
Bah oui, parce qu'on célèbre ces jours-ci les 50 ans de l'album Abbey Road, le dernier des Beatles avant leur séparation. Et il y a quelques jours, figurez-vous qu'on a vu Paul McCartney à la télévision américaine. Ce monument de 77 ans aujourd'hui, qu'on sent d'abord un peu triste, un peu contrarié. Oh, ouais, il a un peu le blues, Paul, parce qu'il se souvient de ce qu'on racontait à l'époque, que la fin des Beatles, c'était pas seulement la faute de Yoko, non, c'était aussi un peu la sienne à Paul, parce qu'il était un peu le méchant dans cette histoire, celui qui voulait en finir. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas si amis que ça avec John Lennon. Je passe un peu comme si on disait dans 20-30 ans que Eva Rock et Mathieu Noël, en vrai, ils n'étaient pas vraiment potes, quoi.
Et surtout, je pense que dans 30-40 ans, les gens se poseront la question.
Vous imaginez,
ça, c'est sûr.
Le trouble, le chaos. Et ce qui est dingue, c'est qu'on l'a tellement dit, on l'a tellement raconté dans plein de livres, que Paul McCartney lui-même, avec l'âge, ça a fini par le perturber. Et il le raconte dans cette émission. Il dit « Je me suis repassé dans la tête toutes les disputes qu'on avait pu avoir avec John. » Et je me suis demandé, est-ce que je le connaissais vraiment? Est-ce qu'on était vraiment proches? Et si c'était les autres, finalement, qui avaient raison, les autres en l'occurrence, tous ceux qui n'étaient pas là et qui racontent quand même aujourd'hui. Bref, ça l'a beaucoup travaillé. Et alors, le présentateur de l'émission a sorti une photo, celle-ci, que je m'empresse de vous décrire parce qu'on est quand même à la radio. Alors, c'est une photo toute simple, elle est noire et blanc. On y voit Paul McCartney et John Lennon assis côte à côte. C'est dans un coin du studio Abbey Road. Et ils sourient. Tous les deux, Paul, il est en train d'écrire sur un cahier. Il y a John qui le regarde, il a la tête penchée, il a la main sur la joue. Ils sont collés l'un à l'autre et oui, il sourit. Et c'est une photo très importante pour Paul McCartney. D'abord, c'est Linda, son épouse, qui était photographe, qui avait pris cette photo. Et cette photo, elle lui a permis de se remettre un peu les idées en place parce que ça crève les yeux quand on la regarde. Bien sûr qu'ils étaient amis, bien sûr qu'ils étaient bien ensemble, bien sûr qu'ils travaillaient. Bien sûr que c'était une expérience unique. D'ailleurs, dans cette émission, Paul dit même, et ça c'est une info, que John Lennon continue de le visiter la nuit dans ses rêves et qu'ensemble, Paul McCartney et John Lennon, aujourd'hui, ils font encore de la musique. Voilà, tout ça, c'est pour les pseudo-spécialistes qui cherchent encore la petite bête 50 ans après. Vous laissez mon Paul tranquille. Merci.
Ah oui, s'il vous plaît.
Votre Paul.
Et bisous.
Gérard Darmon, les Beatles, on s'en parle un peu ?
Mais ah, vous l'avez rencontré, Paul McCartney.
Oui, on s'en parle beaucoup, si vous voulez. Alors là, on peut finir l'émission là-dessus.
C'est vrai que, même pour moi, c'est pas ma génération, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais fait mieux. C'est-à-dire que quand on réécoute le nombre de tubes, c'est en une période très resserrée. Très court, hein, c'était court, l'histoire des Beatles.
Ne me regardez pas comme ça, c'est pas ma génération non plus. Oui, mais... Et pourtant, j'ai écouté. Vous avez rencontré Paul McCartney en vrai ?
Non.
Oui. J'ai eu trois rêves comme ça que j'ai fait. J'ai rencontré McCartney, j'ai rencontré Stevie Wonder.
Et Sinatra.
Jolie triplette.
Et maintenant, je vous rencontre. Et je peux vous dire c'est un choc énorme.
Quelle déchéance.
Non, mais vous pouvez nous raconter.
La vieillesse, c'est un naufrage.
Gérard Darmon, plus sérieusement, vous pouvez nous raconter cette rencontre avec Paul McCartney ?
Non, c'était une amie, Nathalie André, qui à l'époque s'occupait de radio comme ça, m'a dit, écoute, il vient présenter un album, ça devait être en 95, 96. Il vient présenter un album, personne ne le sait, il va être seul dans le studio, donc voilà, si tu veux venir, tu te fais tout petit, etc. Donc j'y suis allé, et on était deux dans le studio, il y avait Laurent Voulzy, et c'est un souvenir qu'on a en commun, et à chaque fois qu'on se voit, même de loin maintenant, 30 ans après,
tu te souviens
On y était.
Oui, on y était, oui, parce qu'on a passé un quart d'heure, 20 minutes ensemble quand même, c'était... ouais. Pour moi c'est Mozart, McCartney, c'est un oiseau, c'est un génie, absolu, c'est un bienfaiteur de l'humanité, parce que le nombre de gens à qui il a fait du bien sur cette terre en écoutant ses titres, en se rencontrant, en se mariant, en faisant l'amour, en faisant des enfants, en se quittant même, peu importe, c'est un bienfaiteur de l'humanité, lui et les Beatles aussi bien sûr, mais il a une carrière tellement prodigieuse en solo. Voilà quoi, c'est un génie absolu, pour moi c'est un Mozart des temps modernes.
J'ai l'impression que Jean-Philippe Ballas a marqué des points avec cette chronique. Néanmoins, vous connaissez la règle, elle peut tomber à tout moment. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Alors, tu sais, oh, il a son rire idiot. Son rire à la fois idiot et malveillant.
Non, alors oui, si, on dit que c'est le dernier album des Beatles, mais je crois que c'était pas le dernier à être sorti, est-ce exact ?
Oui, c'est Let It Be qui est sorti juste après.
Ah bah ouais, c'est nul cette question. C'était sa vraie question, mais vous pensiez piéger un fan des Beatles avec une question si simple.
On est au-delà de ça.
Vous êtes ridicule. Ah, attendez, oui, Gérard Darmon, vous avez aussi une question vache.
Hein ? Ça y est, j'ai trouvé. Ah oui. Je viens d'avoir une idée horrible. Ah non, deux, même non. Trois. Ah non. Oh là là, j'ai plein d'idées. Non. Je suis trop fort.
Non, mais on n'a plus le temps. Ne minons pas nos candidats. Restons sport, Gérard.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 bat son plein. Deux heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Et justement, à la sempiternelle question, peut-on rire de tout ? Notre invité d'hier, Patrick Timsit, nous a montré que oui. Patrick, le décès de Jacques Chirac, ça vous a ému, ça vous a touché ?
Bah, je vais faire cet avou, moi. Donc ça a été annulé.
Ah, bah donc...
On a senti la tristesse sur mon visage, c'est Chirac. Non, c'est avou.
Ah oui, cette mort est venue au mauvais moment, quoi.
Voilà.
Eva était choquée. Je pense pour ma part que Jacques Chirac aurait trouvé ça marrant. À suivre, un sas de décompression dans cette terrible compétition, le moment du quiz où Eva Rock se fait atomiser par l'invité sur un thème que l'invité maîtrise et où elle est nulle. Un concept qui a beaucoup plu à Tim Citière.
Ça, c'est très putassier, hein. Mais très bon, très bon.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Il nous accompagne cet après-midi pour un premier film qui va vous secouer émotionnellement, une sorte de Fight Club pour seniors. Gérard Darmon, vous êtes à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau, qui sort demain. Votre personnage, on l'a dit, est un septuagénaire. Vous êtes vous-même un septuagénaire, si je ne m'abuse. Pourtant, j'ai l'impression que pour vous, Gérard Darmon, jouer un vieux...
Je m'abuse, ça ne veut rien dire, mais on comprend quand même. Oui.
Si je ne m'abuse, Gérard, vous êtes vous-même un septuagénaire.
Oui.
Pourtant, j'ai l'impression que ça reste un rôle de composition pour vous d'incarner un vieux.
Eh ben c'est très gentil, j'espère. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Je veux dire, où en est le personnage?
Ah non, ça c'est clair. Mais est-ce que dans votre vie, le fait notamment d'avoir été papa, je crois, à 69 ans, ça vous aide à rester jeune finalement?
Bah, probablement, mais je me pose jamais la question. Parce que c'est à partir du moment, comme disait Jules Renard, où je veux pas faire mon Luchini, mais un peu comme à partir du moment où vous posez la question, où vous trouvez que j'ai jamais été aussi jeune qu'en ce moment, c'est là que vous commencez à être vieux.
Vous avez quel âge dans votre tête en vrai?
Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir l'éblouissement des 18-20 ans. Très franchement, les mêmes idéaux de jeunesse à peu près, qui n'ont pas été trop écornés. Voilà, une espèce de vie plutôt saine, en étant passé par d'autres méandres, un peu moins sains. Mais bon, voilà, je me pose pas trop de questions. Je suis entouré aussi de mômes, hein. Enfin, j'ai mes enfants qui sont là, c'est une énergie, c'est un... Voilà, ils ne laissent pas passer grand-chose, et donc on est sur le grill très très vite. Et voilà, bon, quant à la petite, elle n'a que 2 ans, donc c'est aussi un apport d'énergie, mais elle m'en donne aussi. Donc non, ça va de ce côté-là, ça va.
Face à vous, Gérard, un des plus beaux esprits de sa génération. Vous allez à présent l'affronter sur un quiz thématique. Et je vous souhaite bonne chance, car elle est relativement imprenable. Votre seule chance, qu'elle tombe sur... J'en étais sûr en plus en l'écrivant. Votre seule chance qu'elle tombe sur des noms d'actrices américaines difficiles à prononcer.
Gwyneth Paltrow qui? Gwyneth Paltrow qui? Gwyneth Paltrow qui? Paltrow.
C'est pas loin, c'est pas loin.
J'avais une patate chaude dans la bouche, je l'avais mal écrit sur ma feuille. Non mais j'avais, il y avait rien qui allait.
Mais surtout,
je
suis incapable de le prononcer aussi.
Ouais, merci
et
Mathieu.
Maroc, vous êtes prête?
Oui.
Gérard,
c'est quoi
Darmon
le thème de votre quiz?
Attendez, je vais vous le dire. Ne soyez pas
impatiente.
Gérard Darmon, tous les jours un quiz thématisé. Oppose donc notre invité à Eva. Nous aurions pu faire un quiz sur le temps qui passe, sur la fin de vie, en hommage à votre dernier film. Vous êtes jeune, vous êtes beau. Mais non, on va faire un quiz sur le cannabis, rapport à Family Business, une série où vous lancez dans ce commerce florissant. C'est un vrai faux, c'est chacun son tour, chaque bonne réponse vaut un point. Je rappelle que le cannabis, c'est mal.
Oh, t'as pas toujours dit ça.
Oui, non, mais ce que je dis en tête, c'est autre chose, Eva. Bien. Gérard Darmon, dans un restaurant du Maine, aux États-Unis, oui. Le propriétaire donne du cannabis aux homards avant la cuisson pour les déstresser. Vrai ou faux?
Oh, je pense que c'est tellement improbable que ça doit être vrai. Je vois très bien faire ça, c'est crétin.
Vous avez raison, c'est vrai. Ouais. Les homards sont sous l'eau, dans une boîte fermée. Du cannabis est soufflé dedans pour qu'il soit apaisé avant de passer à la casserole. Problème, petit problème, la molécule qui apaise n'est pas hydrosoluble. En clair, ça ne sert à rien. Eva Rock, on recense à l'Elysée 17 fauteuils qui sont faits à base de chanvre. Vrai ou faux?
Allez, je veux dire faux parce que ça doit être genre 20 fauteuils. Vous êtes tellement...
Non, c'était juste un gros piège, c'est faux. Non, vous avez raison. D'accord. Bien joué, vous avez su déjouer le piège pour une fois d'habitude. Vous tombez droit dedans, c'est bien. Vous progressez. Attention, une question, 3 propositions. Vous répondez ensemble. Les stars associent plus ou moins volontairement leur nom au cannabis. Quelle personnalité existe en version weed? 1. Il existe le cannabis Meghan Markle, l'épouse du prince Harry. 2. Le cannabis Madeleine Albright, parce que tout devient all right. Ou 3. Le cannabis Tom Cruise, scientologiquement approuvé.
Alors, j'en ai aucune idée, je vous laisse.
Je n'ai fumé avec aucun de ces 3-là. Donc, je peux pas vous... À l'époque où je fumais, je ne fume plus.
Bien sûr.
Oui. Je ne sais pas, on va dire la première, je sais pas.
La réponse 1, Eva, Meghan Markle.
Non, j'aurais dit... Ouais, si, oui, Meghan Markle aussi.
Non, mais répondez autre chose.
All White.
Eh bien voilà, comme ça, ce n'était pas la bonne réponse.
Voilà.
Et comme ça, c'est Gérard qui remporte le point.
Eh oui.
Le cannabis Meghan Markle, il est cultivé par son neveu qui n'a pas été invité au mariage de Meghan avec le prince Harry. La plantation se trouve dans l'Oregon où le cannabis est légal depuis 2015. D'ailleurs, on a appris samedi dernier qu'il a été arrêté par la police car il se promenait la nuit seulement vêtu d'une serviette de bain en hurlant. Voilà, ça, c'est le neveu de Meghan Markle. Sacrée famille. Et Baroque, on peut trouver du cannabis chez Lidl, vrai ou faux?
Non, c'est faux.
C'est faux?
Ah ben ça dépend.
Ben non, vous avez répondu, c'est faux.
Ouais,
c'est vrai, mais en Suisse.
Mais en Suisse, j'en étais
sûr. Il y en a point comme nous. Et 15 euros le paquet de 1,5 g, c'est un prix Lidl. En Suisse, c'est autorisé pour les plus de 18 ans, pour les produits contenant moins de 1% de THC. C'est du circuit court, car il pousse en Suisse.
On est mal.
On est mal, comme disait Tim Seed. Gérard Darmon, c'est la question qui va vous départager. Vous êtes déjà en tête. À 2 km de l'aéroport de Roissy, la commune de Chenevrières-les-Louvres a une particularité. Sur son blason, on trouve du cannabis. Vrai ou faux?
pour être allé chercher cette question, je vais dire au pif, je vais dire que c'est vrai.
Mais oui, mais c'est pas au pif, c'est un processus mental. Il procède par élimination, il a raison, du cannabis doré même. On appelle les habitants de Chenevrière-les-Louvres les Canabriens.
Les
Canabriens.
Les défoncés d'Île-de-France.
C'est un petit surnom, on les embrasse si on nous écoute à Chenevrière. Et oui, on cultivait du chanvre là-bas avant. Bravo, c'est Gérard Darmon, je pense, j'ai même pas besoin de demander
d'habitude
à la régie, qui remporte le quiz. Vous allez le retrouver méconnaissable dans Vous êtes jeune, vous êtes beau, en salle mercredi. Gérard Darmon passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, la course aux jeunes continue pour l'équipée sauvage. L'émission censée reconnecter Europe 1 avec les 15-25. Et là, j'ai un gros feeling. Je sens qu'on tient le bon bout.
Comme dirait ce bon vieux Vivaldi.
Oui,
Vivaldi, la même chose.
Bref, à suivre, direction l'Allemagne. Où rien ne va plus, les amis, puisque la traditionnelle fête de la bière commence à titiller la conscience écologique de nos amis allemands. On vous explique tout après Gavin James, Always sur Europe 1.
L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Pour beaucoup d'entre nous, l'attrait fondamental de l'Allemagne n'est ni Goethe ni Wagner, mais avouons-le, la fête de la bière.
On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée.
Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Avec vous, on part donc en Bavière. On ne pouvait pas manquer l'événement. La fête de la bière bat son plein en ce moment à Munich jusqu'à dimanche prochain. Pour une fois qu'on peut y aller lourdement sur les Allemands, on ne va pas se priver.
Effectivement, hein. C'est le festival du cliché. En même temps, ce n'est pas des clichés à Munich. C'est ça qui est génial. Les gros Allemands rougeaux en culotte de peau qui beuglent des chansons qu'on ne comprend pas. Hein. Des femmes blondes en décolleté pigeonnant. Les millions de litres de bière. Tout ça, c'est en ce moment pour de vrai à Munich. C'est un événement qui a lieu tous les ans depuis 1810. C'est un pilier de la culture bavaroise et c'est surtout une fête des excès et de la démesure. Si vous voulez, je vous donne quelques chiffres et là, on va avoir le tournis.
Votre taux d'alcoolémie déjà, Hélène.
C'est ça. Alors, pour l'instant, je ne fais partie cette année pas des 6 millions de visiteurs qui vont venir sur 2 semaines. En tout, ils vont boire 7,5 millions de litres de bière. Et puis, en fait, moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est comme il faut absorber tout ça, en fait, ils consomment aussi 500 000 saucisses, 500 000 poulets grillés et accessoirement 200 000 de bovins au passage, quoi. Le principe, c'est vraiment de s'en mettre plein la panse. Sachez que chaque bœuf qui passe à l'abattoir reçoit un petit nom qui est annoncé au micro sous les chapiteaux.
Okay.
Alors voilà, maintenant, on attaque Rufus, on attaque Max. Voilà, c'est ça. On vient de perdre nos auditeurs vegan, je pense. Et alors, comme ça, peut-être que les visiteurs ont l'impression, l'illusion d'être dans le respect du produit, du terroir. Alors qu'en réalité, quand on les interroge, et c'est ce qu'a fait le magazine Focus la semaine dernière, et bien, les choses sont assez claires. Ils n'en ont rien à faire des animaux, de leur origine, les conditions d'élevage. Ils veulent avant tout consommer et consommer encore, et pas de la salade, disait un monsieur qui était cité dans ce journal.
Dites-moi Hélène, pas très Greta Thunberg cette fête?
Alors pas du tout. Alors vous prenez l'électricité, on va cramer en 2 semaines l'équivalent annuel d'une ville de 21 000 habitants. Avec tous les stands de saucisses grillées et de poulet, les émissions de méthane aussi explosent tous les standards, et les experts ont fait des mesures. La fête fait tout simplement monter la température générale de Munich. À la fête même, sur le lieu même de la fête, c'est 10 degrés en plus et 30% d'humidité supplémentaire. Alors maintenant, ils font quand même un peu des efforts avec des panneaux solaires sur certains stands, une bière brassée sans émission de CO2, mais c'est vraiment à la marge car à côté des cars de touristes qui déferlent sur la ville, les vols supplémentaires qui sont affrétés vers Munich, tout ça, on est effectivement dans une fête de l'excès qui n'est pas trop finalement compatible avec l'esprit du temps.
Et est-ce que cette fête est menacée, Hélène?
Alors pour l'instant, personne ne la remet en question, mais il faudra quand même surveiller les chiffres de fréquentation, hein, parce que l'année dernière, on a constaté qu'un autre pilier de la culture allemande était en train de s'effondrer, c'est le salon de l'automobile de Francfort, où le nombre de visiteurs s'est vraiment écroulé. C'est un petit peu maintenant la honte de s'y rendre, donc il faudra surveiller ce qui se passe à Munich dans les prochaines années.
Merci beaucoup Hélène Kohl.
À bientôt.
Il est à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau, le premier film de Franz Schindon. Gérard Darmon est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour rire et découvrir par l'entremise d'une impitoyable compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui, chaque après-midi, s'étripent pour la précieuse couronne de chroniqueur du jour. Sous l'œil souverain, mais certainement interloqué, de notre invité arbitre du jour, Gérard Darmon.
Son coriace, c'est Barba.
Et encore, vous n'avez rien vu puisque deux nouveaux concurrents s'apprêtent à entrer dans l'arène du savoir pour en découdre. Il sera question de Diego Maradona, dont le culte prend des proportions parfois inquiétantes. Et puis c'est un boom qu'on n'avait pas vu venir. Oui, laissez-moi finir ma phrase. Boom. Le boom de la vasectomie. Hein, vous avez l'air sans en régime maintenant. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui s'est fixée pour objectif d'allier journalisme exigeant et divertissement potache sans jamais toutefois tomber dans la vulgarité.
Ah bah putain.
Sans jamais tomber toutefois dans la vulgarité, disais-je, Mathieu Charrier. Chic et classe doivent être l'alpha et l'oméga de notre émission, comme je l'expliquais hier à notre invité Patrick Timsit hors antenne. Mais bon, ça c'était hors antenne.
Puis dans les mains de Géraldine Nakache quand je fais un film et je me vide de tout.
Patrick, ne dérapons pas.
Ouais, ça va. C'est important de déstresser, vous savez. Chacun sa méthode, moi ça marche en tout cas.
C'est important, c'est sûr. Vous, Gérard Darmon, vous avez eu la chance de tourner avec Géraldine Nakache ?
Oui.
Vous confirmez, c'est agréable.
Je confirme.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue, mais pour des raisons techniques, et comme nous recevons Gérard Darmon, l'inoubliable inspecteur Bialès, l'intégralité de cette séquence sera bruitée à la bouche. Vous écoutez l'équipe est sauvage avec aujourd'hui un invité culte pour toute une génération, Eva. Extrait son libre de droit parce que le film est trop cher. Vous voulez un whisky ?
Non, juste un doigt.
Vous êtes sûr que vous voulez pas un whisky d'abord ? Comme quoi, avec trois bouts de ficelle quand on a le sens de la comédie, hein. Gérard Darmon, vous êtes à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau. L'histoire, on le rappelle, de Lucius, un septuagénaire désargenté qui, pour payer sa future maison de retraite, va se lancer dans des combats de boxe clandestins, mais entre seniors. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le prétexte du film, les combats de seniors. Oui. Mais ça dénonce une autre réalité qui est celle de la solitude des gens âgés, des vieux, comme vous dites. Vous n'avez pas peur du mot vieux, hein, Gérard Darmon.
Mais non, pourquoi ?
Mais je ne sais pas, certains disent « appelez-moi senior ».
Bah, appelez-moi seigneur, je trouve ça ridicule. Appelez-moi seigneur. Vous me voyez en train de vous dire ça, appelez-moi seigneur.
C'est vrai. Il y a une réplique dans le film qui est importante, qui dit beaucoup sur le sens du film, où Josène Balasco, qui joue votre compagne, vous dit, quelque part, c'était mieux avant. Et vous lui dites, mais c'était quand avant ?
Parce
est-ce qu'on traitait vraiment les vieux mieux avant ? Mais en fait, non. Enfin, c'est un constat.
Il y a une autre réplique que j'adore, c'est combien de battements il te reste ? Elle a la tête sur mon cœur, comme ça, sur ma poitrine. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit, combien de battements crois-tu qu'il te reste ? Je trouve ça...
C'est fort.
Mais ouais. La scène, elle est magnifique. De toute façon, le duo avec Josène Balasco est particulièrement fort. Hein,
et l'écriture est excellente aussi. Ouais. C'est assez rare pour être souligné. On continue de parler de ce film, Vous êtes jeune, vous êtes beau, qui sort demain en salle. Mais mon cher Gérard, l'heure est venue de vous présenter deux nouveaux concurrents. À ma gauche, son contrat stipule que je ne peux la présenter qu'avec une seule musique validée par son agent. Ce qui arithmétiquement n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, puisque après avoir longtemps mené le championnat, elle est actuellement deuxième. Bonjour Eve Roger.
Bonjour à tous.
Mais qu'est-ce qui se passe, Eve ?
Non, mais c'est normal, il faut bien laisser les autres un peu gagner.
Vous êtes la chef du service Société d'Europe 1 et aujourd'hui, c'est justement un fait de société dont vous nous parlez, l'incroyable augmentation du nombre de vasectomies.
Ah oui, c'est une tendance de fond, le nombre d'hommes qui décident d'éteindre à jamais le robinet à spermatozoïdes, plus 491% depuis 2010, plus 491%.
Mais en France ?
En France, absolument.
À ses côtés, Gérard. Au mot vasectomie, il a manqué de s'évanouir.
Là, c'est comme si je n'entendais plus rien. J'ai vu noir et j'ai dit, c'est pas possible.
Bonjour, Jérôme Lacroix.
Bonjour. Aucun lien avec le sujet.
Vous êtes notre expert sport. Et Jérôme, cet après-midi, vous nous emmenez à l'église.
Oui, une église bien particulière. Vous connaissez Diego Maradona ?
Ah, ça, un peu.
Une idole, au sens propre.
Il y a une église ?
Vous l'entendrez.
Les gens prient Maradona.
Tout est vrai, je dis par avance que tout est vrai, réalisé sans trucage.
Quel sujet passionnera le plus notre invité Gérard Darmon ? A priori, on ne se connaît pas dans la vie, mais vous êtes plus foot que vasectomie, Gérard.
Oui, a priori.
A priori.
Maintenant, intellectuellement, on peut me séduire aussi.
C'est possible aussi.
Oui, oui.
Alors Gérard Darmon, de Diva à 37.2 le matin, et non pas 37.3 le matin, qui est un autre film qu'on m'a mis sur ma fiche, visiblement, je ne sais pas, c'est la suite probablement.
Oui.
En passant par Astérix, Mission Cléopâtre, La Cité de la Peur, Le Cœur des Hommes, Le Grand Pardon, et j'en passe, vous êtes un des acteurs français les plus célèbres, mais... Éthique oblige, on s'est senti obligé de le vérifier dans la rue. C'est pas un micro-trottoir, généralement trop flagorneur pour l'invité, non, c'est un micro trop trash, comme un micro-trottoir, mais pas monté. On a laissé tout ce que les gens ont dit.
Ah, c'est bien.
Gérard Darmon. Oh, mais si, je le connais. Oh, je l'aime trop.
Ah, il a
fait. Je l'aime trop. Il a fait. Putain.
La boucherie là.
Mais il a fait aussi un truc super connu.
Attendez, ça va m'énerver rapidement.
Ah oui, il ressemble un peu à Anthony Quinn.
Il fait partie encore de cette génération un petit peu des Delon, des Belmondo, qu'on de la gouaille, qu'on de la gueule, qu'on du franc-parler.
Même pour les 25 ans, ils ont redansé. Enfin, non, pas les 25 ans, plus. Ils ont refait la chorégraphie.
Moi, je trouve que Gérard Darmon, c'est un très bel homme. Et plus il vieillit, plus il a du charme.
Attendez, ça m'énerve. En plus, il est avec un autre artiste super connu.
Il donne une impression un petit peu de quelques valeurs de gauche, mais je pense qu'il n'est pas que de gauche.
Voilà, c'est ça, la carioca.
Oui, mais c'est compliqué comme mot aussi, moi, je suis
sûre. Je dois rappeler Jacob.
Alors bon, tout le monde vous connaît, tout le monde
pardon,
vous aime.
Vous parlez de Maradona, mais bon, excusez-moi, je connais pas votre sujet, mais
il y a un type plus connu quand même que Maradona, c'est
désolé,
quand même Gérard Darmon. Il y a un truc qui revient toujours chez Gérard Darmon depuis quelques années, c'est quand même le côté sexe symbole. J'ai l'impression, ouais. Et chez des femmes très jeunes que nous avons entendues dans ce micro trop trash, vous avez toujours été.
Je crains pire.
Non, mais je me posais la question. Vous avez toujours été un sexe symbole ou c'est quelque chose qui vous est venu avec cette voix qui s'est transformée mais au fil du temps.
Vous pensez vraiment que je vais répondre à cette question?
Si vous allez répondre, vous allez répondre. Nous.
Est-ce que je peux poser la question autrement? Ça fait quoi d'être un sexe symbole?
C'est très flatteur. Franchement, mais bon, il n'y a pas d'ingrédients, je ne sais pas du tout. Ça, c'est comme la popularité, on ne peut pas répondre à ça, vous vous rendez compte?
Je pensais que vous me donneriez un petit secret, ben, pas, pour progresser.
Non, 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 je vous montrerai un petit secret.
Tout c'est clair, tout fait sens. Vous êtes jeune, vous êtes beau, c'est le titre de ce film épatant qui sort demain avec Patrick Bouchité, Josiane Balasco, Gérard Darmon et notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Ève Roger, Jérôme Lacroix sont à mes côtés. L'équipe est sauvage continue. Deux heures de découvertes rieuses pour vous, d'un pogo mortel pour eux. Après les chauffeurs de taxi, les livreurs de tacos, vous pouvez désormais noter les journalistes. En tout cas ceux d'Europe 1, qui prennent ça très au sérieux. Il faut dire que le vainqueur aura le droit de s'asseoir sur mes genoux au moment du couronnement, ce qui fatalement fait naître chez certaines de coupables tentations.
Moi je suis en tête du championnat, mais je me suis jamais assis sur tes cuisses musclées. Hein. Tu as dit celui qui gagne, moi j'ai gagné souvent. Eh ben jamais j'ai eu ce droit-là.
J'en prends note, Ève, mais enlevez votre main, s'il vous plaît. Ah, Gérard, je sais que vous vivez ça au quotidien, c'est vrai que c'est dur d'être un sexe symbole. A tout de suite. Mais enfin, Ève, j'ai dit arrêtez de me toucher.
Non, mais j'aime bien prendre la main, là, ça me...
Mais oui, mais peut-être, mais c'est gênant.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue, quatre journalistes en compétition au service de votre culture générale. Un seul décrochera le titre de chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité arbitre, Gérard Darmon. Gérard, oui. Comment vous trouvez l'ambiance jusque-là, raffinée?
C'est le mot qui me manquait. Je me disais, qu'est-ce que je peux dire?
C'est pour ça que je vous l'ai fourni sur un plateau.
C'est raffiné.
Oui, alors Sylvie Testu, notre invitée la semaine dernière, ne pourra malheureusement pas en dire autant. La faute à Jérôme Lacroix, qui s'est senti pousser des ailes à la fin de sa chronique sur la pilule intelligente qui mesure de l'intérieur la santé des sportifs. Ah. C'était super intéressant, mais bon, pas à l'heure du goûter, quoi.
La petite pilule en question, d'abord, elle est valable pendant combien de temps dans le corps?
Elle reste 24 à 48 heures. Personne ne me demande comment on l'évacue.
On s'en doute, non?
Ben voilà, vous avez trouvé.
Une certaine idée du chic français, c'est ça aussi, l'équipe est sauvage. Et Jérôme, aujourd'hui, vous revenez à vos fondamentaux, j'ai envie de dire, fini la proctologie, bonjour le foot.
Je vous emmène en Argentine, un pays traversé en ce moment par un bruissement, un petit bruissement. Non, en fait, c'est un tonnerre qui fait ça.
Diego Armando Maradona.
Des milliers de fous du foot, et ils sont nombreux là-bas pour une folie furieuse depuis presque un mois, parce que, bah oui, il est de retour au pays. Diego Maradona, ô combien icône en Argentine, nommé entraîneur, manager d'un club de La Plata, près de Buenos Aires, qui se morfond actuellement dans les bas-fonds du classement. Il y avait 30 000 personnes dans le stade, c'est ce qu'on entend, un stade plein pour un simple entraînement quand il est arrivé, les télés argentines en direct. Alors oui, Diego, c'est un dieu dans son pays. Pour lui, l'Argentine, pas que celle du foot, perd totalement pied avec le réel, on est dans l'adulation divine pour de vrai, parce que oui, des milliers d'Argentins forment un cheptel, le cheptel des brebis de Diego. Ils forment l'Iglesia Maradoniana, l'église maradonienne.
Attention, happening sur europe1.fr.
Jérôme Lacroix vient de mettre son maillot Maradona.
Mes chers amis, nous sommes tous réunis dans cette maison de Rosario, la ville mère patrie de notre communauté. Recueillons-nous pour le récit du Notre Père, enfin du Notre Diego, le Diego Nuestro.
Diego Nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda.
Notre Diego qui est sur les terrains, que ta main gauche soit bénie, que ta magie arrive jusqu'à nous. Fais-nous nous souvenir de tes buts sur la terre comme au ciel. Pardonne aux Anglais comme nous pardonnons à la mafia napolitaine. Ne nous laisse pas être pris au hors-jeu et délivre-nous de Pelé.
Diego.
ça est véridique, il existe une vraie congrégation avec ses cultes, l'église maradonienne. Elle revendique plus de 100 000 fidèles partout dans le monde, fondée en 1998 par deux journalistes argentins, vous l'imaginez, fous de la star. Alors faut imaginer des messes, ils sont tous debout, en maillot de foot, t-shirt ou écharpe à l'effigie bien sûr de Maradona, devant la reproduction en miniature d'une église un peu en carton-pâte, flanquée du numéro 10 tout en haut du clocher, et les fidèles dans des salles transformées en église qui chantent.
Mais que dit le pape de tout ça ?
C'est intérieur.
L'info de votre papier, c'est quand même que le cannabis est dépénalisé maintenant en Argentine. C'est ça l'info, en fait.
Comme toute religion. Moi,
ça, hein.
Comme...
Je connaissais cette religion.
Comme toute religion, elle possède ses 10 commandements. Parmi lesquels, déclarer son amour inconditionnel pour Diego et le football, défendre les couleurs du maillot argentin tout en respectant ses semblables, propager les miracles du dieu Diego à travers toute la planète, mais aussi... vivre dans le monde réel et garder les pieds sur terre, hein, sait-on jamais.
Ils n'ont pas l'air de vivre vraiment dans le monde réel, ces gens-là, si ?
Oui et non. La religion a instauré son propre calendrier. Nous ne sommes pas en 2019, mais en 59, après Diego, puisque leur rang zéro, c'est 1960, l'année de naissance de Maradona. Tout ça est très logique. Hein. Noël et le Nouvel An tombent chaque 30 novembre, le jour de naissance de Diego Maradona. Alors l'église maradonienne, elle a ses fidèles, elle a ses apôtres, elle a ses prêtres. Mais quelques précisions, hein, y a pas de fanatiques dans cette religion au deuxième voire troisième degré, mais pour Maradona la passion est telle en Argentine et ça se cristallise ici que cette église elle a récemment reçu un rappel à l'ordre Vatican. C'est ce que vous disiez, tellement elle a pris de l'ampleur. Alors l'adhésion c'est pour tout le monde, c'est gratuit. Leur but c'est pas du tout de singer entre guillemets les vraies religions, hein. Elle vit, c'est assez rigolo, c'est un peu à l'image de Maradona, elle vit cette religion grâce au sponsoring d'un site de jeux de casino. Donc voilà, allez en paix les amis. Et Médigo.
Mais une question, Jérôme, quelle est leur théologie ? Après, si on s'est bien comporté durant sa vie, on va au paradis de Diego, on retrouve Diego et qu'est-ce qui se passe ?
En même temps, on regarde certains matchs de Diego, on y est au paradis.
Oh, c'est bien répondu. Diego Maradona, pour vous, ça reste un des, peut-être le meilleur joueur de foot de tous les temps ou
Un grand, très, très grand footballeur. Moi, c'est comme les Beatles et les Stones. Moi, je préférais Pelé, mais bon.
C'était plutôt Pelé.
Oui.
Je vous recommande le dernier documentaire qui est sorti sur Maradona, qui est extraordinaire, vraiment.
Vous n'avez pas le titre par hasard, comme vous êtes spécialiste média, peut-être
vous auriez peut-être Diego, non ?
Peut-être tout simplement Diego ?
J'ai un doute,
vous avez un mini doute, comme
j'ai un mini doute, je vais vérifier.
Merci Jérôme Lacroix. Alors l'église à la gloire de Maradona, les derniers secrets des Beatles ou les prévisions cinéma 2020 de Mathieu Charrier, l'issue est proche maintenant et la voix de notre invité comptera triple. En tout cas, beau travail Jérôme. Comment vous aviez préparé votre chronique ?
Avec des bidons d'eau bénite et du gros sel.
Ah, Neymar fait ça aussi, c'est toujours gagnant. Europe 1. Parler d'un film sur les combats de seniors le jour où l'on fête la Journée internationale des personnes âgées. Était-ce vraiment une bonne idée ? Oui, car c'est un film qui dénonce la solitude des seniors les plus précaires. Un film qui va vous surprendre. Il est à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau. Gérard Darmon nous accompagne jusqu'à 18h. À suivre, selon une étude de l'université d'Oxford, chaque couple perd désormais en moyenne 17 minutes par soir à s'engueuler devant l'écran d'accueil de Netflix pour savoir quoi regarder.
J'ai une baiser.
Qui pourrait nous guider dans la jungle des programmes ?
Je me permets de proposer mes services dès que j'ai changé l'eau des crocos.
Oui, non, Gérard, c'est gentil, mais vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes notre invité. Détendez-vous, c'est Eva qui s'en occupe. Votre sélection télé sera juste après un intermède musical.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé Mireille Mathieu.
C'est exact, Jérôme, ça fait longtemps, mais pourtant on va plutôt écouter Vanessa Paradis, Be My Baby sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'une joute clandestine et sans merci, qui n'est pas sans rappeler les combats de seniors de Vous êtes jeune, vous êtes beau, ce film que notre invité nous présente aujourd'hui. Sauf qu'évidemment ici, personne n'est encore entré dans le troisième âge. Comment vous vous sentez, Eva ?
Elle en peut plus, la vieille.
Bref, la compétition continue. 4 journalistes disputent le titre suprême au service de votre savoir, évidemment. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Vous votez via Twitter. Sachant que le vote de notre invité d'honneur comptera triple aujourd'hui, c'est notre Gérard préféré. Nous sommes ravis de le recevoir, Eva.
Ça fait rêver, Gérard Larcher.
Gérard Darmon est avec nous. Gérard, vous êtes à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau. On a envie de Gérard Larcher aussi, mais bon, on va certainement moins se marrer.
J'ai failli riper, dites
pas
donc.
Pas sûr, c'est vrai, on ne sait pas.
À son insu, peut-être.
C'est vrai aussi. Vous êtes jeune, vous êtes beau, ça sort demain, c'est le premier film de Franz Schindler. Mais récemment, on vous a également découvert sur Netflix en patriarche, prêt à investir dans le cannabis. Family Business, c'est le titre de cette série complètement déjantée avec Jonathan Cohen notamment et Enrico Macias. Alors rien que pour ça, bon, il faut le regarder. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer la saison 2 pour tous les fans ?
Confirme. Je confirme la saison 2.
Enrico Macias sera de la saison 2.
Ça, c'est vraiment
Vraiment, parce que j'ai tellement aimé votre duo dans la saison 1.
Oui, probablement, j'espère. Il y a Julia Piaton aussi. Hein,
elle est extraordinaire, Julia
magnifique,
Piaton.
Ouais. Il y a d'autres acteurs qui sont sublimes.
Est-ce que vous, Gérard, vous êtes vous-même un gros consommateur de séries?
C'était la vraie question. Ça.
J'ai barré cannabis au dernier moment pour rester tout public, mais vous m'avez lu parfaitement.
Oui, je consomme pas mal de séries. Ouais.
Justement, saviez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant cet écran d'accueil de Netflix ou n'importe quelle plateforme de VOD à laquelle on est abonné, histoire de trouver ce qu'on va regarder dans l'océan des possibles. Heureusement, il y a Eva Rock et ses 17 minutes de gagner. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, Eva ?
Eh ben alors, pas une série, je profite de votre présence, cher Gérard Darmon, pour parler de jazz et d'un documentaire en particulier qui
Quincy.
Est à voir. Non, pas Quincy, parce que je pensais que vous l'aviez vu. Et pas non plus le documentaire sur Sinatra qui est exceptionnel, que je vous recommande aussi sur Netflix. Non, sur Netflix, vous allez pouvoir aussi entendre cette trompette. C'est le son d'un petit génie nommé Lee Morgan. Il avait 18 ans, il jouait déjà avec Dizzy Gillespie. Il joue avec Dizzy Gillespie, il va devenir rapidement leader pour le label Blue Note. Il enregistre avec les plus grands, notamment Wayne Shorter ou encore avec la formation d'Art Blakey, les Jazz Messengers. La vie de Lee Morgan, c'est un peu jazz, belle voiture, fringues, cognac, drogue. Dans les nuits de New York, il va vite se perdre. Il vendra même ses chaussures pour s'acheter sa dose d'héroïne. Plus personne ne veut jouer avec lui. Et puis, il croise la route d'Hélène. Hélène, elle est standardiste. C'est une excellente cuisinière qui adore nourrir les musiciens entre deux sets. Elle est plus âgée que lui. Elle va vite redevenir son amie, sa confidente, son amante et puis sa femme. Elle lui permet de reprendre pied, cure de désintox, retour sur scène et des nouveaux contrats pour des disques et des concerts. Elle va le manager, le protéger, peut-être un peu trop. Une autre femme passe par là, séduit, lit. Hélène, elle craque. Une nuit de février 72, elle le retrouve, Lee Morgan au Slugs, c'est un club de jazz. Une dispute éclate et un coup de feu aussi. J'ai dit, je n'ai pas pu faire ça. J'ai pas pu faire ça. Ça doit être un rêve. Et je vais me réveiller. Et en fait, le rêve va s'avérer être un cauchemar. Hélène vient de tuer Lee Morgan. Elle est arrêtée. Elle va bénéficier ensuite d'une liberté conditionnelle quelques temps plus tard. Et cet enregistrement que vous venez d'entendre, eh bien, c'est un extrait d'une interview qu'elle a accordée à un de ses professeurs en février 96. Alors, l'entretien a duré quelques heures. Ils devaient se revoir pour terminer cette interview, mais Hélène est morte un mois plus tard. Cette histoire et la musique de Lee Morgan, c'est à voir sur Netflix dans un documentaire remarquable et poétique qui s'appelle I Call Him Morgan, qui est signé Casper Collin et qui est illustré par des images d'archives et les magnifiques photos de Francis Wolff, un des fondateurs du prestigieux label Blue Note, et c'est à voir sur Netflix.
Ah ouais, vous m'avez vraiment donné envie.
Eh bien, je veux bien que vous le regardiez, puis vous m'envoyez un petit mot pour me dire si j'ai bien fait de vous le dire ou pas.
D'accord.
Voilà.
Je précise, Gérard.
C'est une façon très élégante de me dire, passe-moi ton
06. Tout en finesse, elle fait ça très finement.
Bien sûr.
Allez, très élégant.
Bon tact.
17 minutes de gagné, merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre longtemps, peut-être aussi par la faute de certaines productions hollywoodiennes, la vasectomie a fait peur.
T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Pourtant, 25 ans après Terminator, les techniques se sont affinées, hein? Et la vasectomie, la stérilisation masculine, connaît un essor sans précédent. Le nombre d'opérations a été multiplié par 5 en 10 ans. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage sur Europe 1, 2 heures de bonne humeur certes, mais surtout d'un journalisme intransigeant. Investigation, décryptage, quitte à se fâcher avec les puissants, nos journalistes n'hésitent pas à dire les choses.
Le roquefort, voilà, je trouve parfois que c'est un peu trop fort.
Et la compétition continue. Sous l'œil de notre invité d'honneur, Gérard Darmon est avec nous jusqu'à 18h. Il est à l'affiche du film « Vous êtes jeune, vous êtes beau » qui sort en salle demain, l'histoire d'un septuagénaire dans la Dèche qui va accepter de participer à des combats clandestins de seniors. Il va recroiser un vieil ami, Aldo, joué par Patrick Bouchité. Aldo qui vous embarque dans une soirée à un moment du film très sexe, drogue et rock'n'roll à laquelle vous n'adhérez pas vraiment. Ça, c'est pour le cinéma, mais votre vie à vous, Gérard, elle a été à un moment quand même très sexe, drogue et rock'n'roll pour ceux qui ont lu votre livre.
Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais c'était peut-être le moment où il fallait que ça arrive. Oui, absolument. Oui.
Mais vous dites, j'ai connu 3 années de dope intensive, puis 40 autres de dope ordinaire, presque culturel. Ça me plaisait, je fumais de l'herbe. Qu'en dire que j'appartiens à une génération où il suffisait de se baisser pour en trouver?
C'est vrai, même de les cultiver. Non, mais quand je dis ça, bien sûr, que c'est quand je dis c'est culturel, bien sûr, parce que l'Afrique du Nord, moi je suis né ici en France, à Paris, mais toute l'Afrique du Nord, toute l'Afrique d'ailleurs, tout le Moyen-Orient, toute l'Amérique du Sud, Il n'y a qu'en Europe où il y a eu une espèce d'interdit, comme ça, de morale très judéo-chrétien sur l'herbe, etc. Bon, voilà, bon, ça a l'air de revenir maintenant, de changer un peu de cap. Mais oui, bien sûr, oui. Mais c'est très bien, c'était un voyage pas si simple que ça. C'était pas, on fumait pas, en tout cas moi, je fumais pas comme ça pour être béat. Et il y avait un vrai combat. Ça me mettait parfois dans des états très très compliqués, mais c'était, j'avançais quoi. On descend dans les égouts et c'est bien.
Et vous avez complètement arrêté aujourd'hui?
Oui, depuis 7-8 ans j'ai arrêté de fumer, 7 ans.
Vous êtes jeune, vous êtes beau, sort demain, on continue d'en parler. Mais Gérard, il est l'heure d'accueillir la dernière concurrente de l'après-midi. Femme de pouvoir, mais aussi femme fatale, qui a réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Voici Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1 et compétitrice redoutable. Elle est très excitée de vous rencontrer aujourd'hui, Gérard Darmon. Alors Ève, vous êtes que convenablement préparée?
Le minimum hygiénique.
Oui, non, je parlais de la préparation de la chronique, Ève, techniquement. Bon, bref, le message est passé. Gérard, Ève, Gérard. Et alors, c'est marrant l'esprit humain, puisque pour taper dans l'œil de Gérard Darmon, vous avez décidé de parler vasectomie.
Non, c'est une tendance de fond, et les chiffres sont implacables, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Le nombre d'hommes qui ont pratiqué une vasectomie, c'est-à-dire qui ont dit stop aux spermatozoïdes, a été multiplié par 5 depuis 2010. Et depuis 2017, ça monte en flèche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la crise de la pilule est passée par là. Les femmes s'inquiètent maintenant de l'impact des hormones sur leur santé. Pilule, stérilet, anneaux ou patch. Et quand elles tournent la tête, qu'est-ce qu'elles voient? Eh bien, un homme. Et elles lui disent, eh bien, pourquoi pas toi? Alors, c'est ce qui est arrivé à Olivier. Olivier a eu une discussion avec son épouse qui ne pouvait plus prendre la pilule. Et lui, il s'est fait opérer à 39 ans. Ils avaient déjà 3 enfants. Et vous allez l'entendre, ça ne lui a posé aucun problème.
Je ne considère pas du tout ça comme tabou. C'est vrai qu'il y a peut-être pas mal d'hommes dans leur tête qui pensent qu'après une vasectomie, on est moins viril qu'avant, que ça change quelque chose, alors que ça ne change rien du tout. Au contraire, moi, ça m'a plus épanoui qu'autre chose.
Et oui, la France a du retard parce qu'en France, comme dans beaucoup de pays méditerranéens, ne plus avoir de spermatozoïdes, c'est considéré comme une atteinte à la virilité parce qu'on confond fertilité et virilité. Alors moi, j'ai fait une première découverte, c'est que la vasectomie, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Il faut se figurer donc les testicules qui fabriquent les spermatozoïdes. Oui. Qui sont reliés à la prostate, et c'est ce tuyau entre les deux qu'on coupe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'éjaculation. Parce que ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, les spermatozoïdes ne représentent que 2 à 3% du liquide séminal. Donc ça veut dire que c'est rien du tout. Ça ne change absolument rien. Il y a bien éjaculation, même s'il y a...
de la bière, non, enfin, du...
Alors, ce que vous appelez la bière, c'est du liquide séminal, c'est des nutriments, c'est des facteurs chimiques qui aident les spermatozoïdes à grossir, à être plus mobiles, etc. Mais ce ne sont pas des spermatozoïdes.
Et est-ce que ça marche tout de suite?
Alors, malheureux. Pas tout de suite, et ça c'est ma deuxième découverte, c'est qu'on ne devient pas stérile immédiatement une fois que l'opération est faite.
Tout de suite après l'opération.
Voilà, il faut attendre.
J'utilise une image,
écoutez,
elle vaut ce qu'elle vaut.
90 jours avant de devenir vraiment stérile, et là c'est le docteur Christian Castagnola, urologue, qui va nous expliquer pourquoi.
Les spermatozoïdes vont mettre 90 jours pour aller du testicule jusqu'à la prostate. Ils sont assez feignants, mais c'est parce qu'en fait, dans cette migration, ils continuent leur maturation. Donc lorsque vous coupez le canal déférent, il y a des spermatozoïdes qui vont être en chemin et il faut éliminer ces spermatozoïdes.
J'aime beaucoup, ils sont en chemin.
Ils sont en chemin et ils sont feignants aussi.
Et donc il faut attendre 20 éjaculations avant effectivement de devenir réellement stérile.
Ah, il faut se dépêcher alors.
20 éjaculations, c'est-à-dire 48 heures à peu près. C'est beaucoup, hein. Enfin bon, ok.
Tous n'auront pas la patience.
On fera un effort.
Ouais. Est-ce que c'est irréversible cette opération?
Alors, on a beaucoup longtemps cru que non, mais non, il existe une opération qui permet de faire le chemin en arrière, qui s'appelle... Non, mais c'est pas vrai, vous connaissez ça,
bien
Gérard Darmon.
Bien sûr,
vous m'avez l'air très renseigné, Gérard Darmon.
Non, c'est pas ça, c'est parce que l'année dernière, j'ai joué une pièce qui s'appelait L'ordre des choses, et c'était le sujet, on parlait aussi de ça.
Ah oui, donc effectivement, cette opération existe, et donc j'avais bien noté, parce que ça me semblait compliqué. Redites-le.
Vasectomie, voilà. Vasectomie, un truc comme
mais ça.
Mais
ça marche pas à tous les coups. Alors, la plupart des hommes, on leur propose de congeler leur sperme et avant l'opération pour, au cas où, ils aient un petit revenez-y.
Merci beaucoup, Ève Roger, pour ce sujet qui est tombé justement à pic avec l'ancienne pièce de Gérard Darmon. Hein, vous ne le saviez pas, mais parfois, vous tapez juste. Il est à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau, un film duquel vous ne sortirez pas indemne. Gérard Darmon est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage est entrée dans la dernière ligne droite. Nous saurons bientôt qui vous avez élu chroniqueur du jour. Mais avant cela, nous répondrons à la question que vous posera votre femme d'une voix courroucée lorsque vous rentrerez tout à l'heure à la maison les mains vides. Mais alors Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Comme c'était à vous de vous occuper des courses, vous vous sentirez minable, vous regarderez vos pieds, vous répondrez sans y croire.
Les poissons panés.
Délice in extremis arrive, la rubrique qui sauve la mise des étourdis qui ont oublié de faire les courses. La promesse, une recette rapide, simple, économique et inventive. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue deux heures d'un combat épique opposant les plus valeureux journalistes de la rédaction. Ils se sont déchirés au service de votre culture G. Qui sera élu chroniqueur du jour ? À l'arbitrage, un invité d'honneur. Selon une étude Doxa récente, le timbre de sa voix permettrait à 87% des femmes interrogées d'atteindre plus facilement l'orgasme. Une voix légendaire, oui Jérôme ?
La voix du général de Gaulle sur les ondes de la BBC.
Non, non, chacun ses vices, Jérôme, on ne vous juge pas, mais c'est en revanche la voix de Gérard Darmon qui a été massivement citée dans cette étude. Il est à l'affiche du film « Vous êtes jeune, vous êtes beau », un film envoûtant. Je ne vois pas d'autres mots qui sortent demain. C'est un premier film. Hein. Vous êtes stressé pour le réalisateur ? Parce que vous, j'imagine que vous êtes assez détendu. Mais...
Je ne suis pas stressé pour le réalisateur. Je pense qu'il est en train de préparer un autre film et puis qu'il fera son chemin, il fera sa vie. Non, non. Ben bon, mais c'est toujours un peu stressant d'avoir un film qui sort, surtout un film comme ça, qui ne fait pas partie de la meute. Donc voilà. Mais sinon, moi, je suis très heureux.
Parmi vos projets, on évoquait tout à l'heure la saison 2 de Family Business sur Netflix. Côté cinéma, deux autres projets. Le prochain film de Cairon, Brutus contre César, avec Thierry Lhermitte et Pierre Richard.
C'est tourné déjà.
Ça, c'est tourné. Mais... Vous y incarnez un sénateur un peu tordu. Ça donne quoi, Gérard Darmon, un sénateur un peu tordu ?
Ben, le sénateur tordu, c'est Cassius. Décidément, j'étais dans Ligus cette année. Lucius, Cassius, Nunius, Sucius, peut-être bientôt. Allez savoir. Voilà, oui, donc il complote pour évidemment tuer César. Je fais père, si j'ose dire, après ce sujet, avec Lhermitte. Et puis avant, il y a eu le tournage de Boutchou avec Carole Bouquet.
Et ça sort quand, Boutchou ? On ne sait pas.
Je ne sais pas, peut-être en avril aussi.
Il faudra rappeler Mathieu Charrier, peut-être le 7e.
Voilà, voilà.
Vous portez également depuis plusieurs années un projet de film un peu fou, un peu barré, qui fait peur aux producteurs, dites-vous. Ça s'appelle oui. Fernandel, c'est moi.
Oui,
vous êtes un fou de Fernandel.
Oui, j'aime beaucoup Fernandel et puis je le ressens bien. Et j'ai écrit une histoire un peu folle là-dessus et qui plaît beaucoup mais qui fait peur. Donc je ne sais pas si un jour je le ferai, j'ai tellement envie de le faire. C'est très compliqué.
C'est compliqué à monter.
Oui, c'est très compliqué à monter.
Ah ben, quand on est Gérard Darmon, c'est compliqué de monter un
oui,
film.
Oui, oui, surtout quand on est Gérard Darmon.
Mais la modestie l'étouffe.
Non, pas du tout. C'est pas de la fausse modestie. C'est de...
Jacques Chirac nous a quitté la semaine dernière. On en parlait sur le humoristique tout à l'heure. Très bon enchaînement, vous avez vu. Sans transition, c'est quelqu'un que vous avez l'occasion de croiser, je crois.
Ah oui, plus que croiser. Oui, on s'est vu souvent parce que j'étais très ami avec Claude et puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il était et maire de Paris et premier ministre et président d'ailleurs.
Et ça dit pas mal de choses de lui. Vous nous disiez qu'il a été pour vous une porte d'accès vers certaines stars que vous aduliez, comme Frank Sinatra, par exemple. C'est grâce à lui que vous avez pu le rencontrer.
Ah oui, il m'a fait toucher du doigt mon rêve, c'est-à-dire de rencontrer Sinatra, de parler avec lui, de boire un coup avec lui, de fumer une clope parce que je fumais à ce moment-là, de boire un Jack parce que c'était sa boisson, de dîner, de manger des pâtes. Et je regardais, je le dis toujours, mais c'est vrai, je regardais comment... Je me disais, est-ce que lui, il a son plat de spaghetti comme le mien ? C'est-à-dire qu'il va y en avoir une plus longue. Et est-ce qu'il la coupe directement ou est-ce qu'il la gloute comme ça et voilà, donc c'était parfait. Mais oui, voilà, donc ce sont des moments formidables, inoubliables. Il m'a présenté à lui, il m'a pris sous son bras. Il était vraiment très formidable. Et puis, d'une façon plus intime et plus privée, j'en parle jamais, mais il a été, lorsque ma mère était très malade et elle était sur le point de partir, il a été d'un support affectif magnifique.
Mais c'est extrêmement intéressant, je trouve, parce qu'il y a eu, surtout les gens qui commentaient sans connaître Jacques Chirac, il y a eu pas mal de certains qui émettaient des doutes sur le fait, parce qu'il était tellement sympathique et tellement humain, que certains émettaient la possibilité que ça soit une forme de machiavélisme, qu'il soit finalement pas si humain comme
mais
ça, qu'il le faisait politiquement.
Mais
est-ce
sinon,
que vous nous dites...
Sinon, il n'y a pas les images qu'on a vues hier. Il y a vu le peuple, quand t'es comme ça, les gens ne se trompent pas à ce point-là. Ils peuvent se tromper sur beaucoup de choses. Hein, je pense
on peut tromper mille fois.
Mille fois, voilà, exactement.
Il est à l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes beau. Demain, en salle, Gérard Darmon est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Je vous connais comme la paume de ma main, chers auditeurs. Vous avez encore oublié de faire les courses pour le dîner de ce soir. Inutile de vous autoflageller, une solution existe. Délice in extremis, tous les jours vers 6h moins le quart, une recette de dernière minute facile et pas chère pour épater vos proches, distillée par notre expert en gastronomie et en bourde géopolitique, Olivier Pouls. On avait tremblé sur sa recette du riz sauté.
Je vais vous proposer de faire du riz sauté. C'est un plat qu'on trouve dans toute l'Asie avec autant de versions pratiquement que d'Asiatiques, c'est dire.
C'est presque raciste.
Ils sont nombreux et c'est pas moi qui ai inventé qu'il y ait 1 milliard 400 millions de Chinois quand même.
Aujourd'hui, c'est tout le Maghreb qui retient sa respiration avant sa recette du tagine. Restez avec nous. Comme dirait Céline Dion, courage sur Europe 1. Et justement, toute la journée, on vous offre les premières places pour les vieilles charrues l'été prochain à Carré pour voir Céline Dion en live. Pour tenter votre chance, envoyez charrue par SMS au 739-21 ou appelez-nous au 3921. Courage.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Elle est là aussi pour ça. L'équipe est sauvage continue. Qui sera élu chroniqueur du jour? Vous réfléchissez, vous décidez, vous votez. Ça se passe sur Twitter. Notre invité aussi aura son mot à dire et pas des moindres puisque sa voix comptera triple. Et quel invité! Timbre vocal Barry Whiteien, séduction ravageuse.
Under my skin,
évidemment. Frank Sinatra, élégance. Les femmes en sont unanimement folles, n'est-ce pas, Eva?
On l'appelle Hot GG.
Hot GG. Modérez votre enthousiasme, mais vous n'avez pas élevé les cochons ensemble quand même. Hein, attention. Gérard Darmon est notre invité jusqu'à 18h et nous a rejoint en studio un personnage pittoresque. Il incarne l'hédonisme avec un grand H. Si on devait le résumer à un son, ce serait... En effet, rares sont les individus à avoir déjà 3 bouteilles de Chablis au compteur avant 18h.
3 bouteilles, il exagère.
Oui, disons deux. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu. Bonjour Gérard Darmon. Bonjour tout le monde.
Délice in extremis, chaque jour, vous vous adressez à nos auditeurs tête en l'air qui ont totalement oublié de passer faire les courses et de songer à une recette pour ce soir. Au menu du jour, non pas une spécialité marocaine comme je l'ai annoncé, puisque vous avez changé au dernier moment. Vous êtes comme ça, vous êtes plein de surprises, Olivier Pouls.
J'ai changé d'avis hier soir, figurez-vous, en ouvrant mon frigo et en voyant ce que j'avais dedans. Il se trouve que j'avais quelques figues, que j'avais du gingembre et que j'avais du citron vert.
J'imagine que c'est donc la saison des figues, c'est ça?
C'est la fin de la saison des figues, mais elles sont encore remarquables. Je pense que vous avez même un figuier chez vous, Gérard Darmon, c'est vrai? Oui, dans mon jardin, oui.
Comment vous savez ça?
C'est pas à Paris, mais c'est ce que je viens de lui dire. Genre, je vous connais bien quand même. Je vous suis depuis longtemps, depuis c'est de la peur. Tout je sur vous. Vous avez un figuier, non? Oui, je viens de te le dire.
Bon, alors l'idée, c'est que les figues que j'avais viennent du sud, donc elles sont un peu plus en avance, et là, elles étaient vraiment très mûres. Et donc ces figues très mûres, il fallait un peu les contrer en leur donnant du peps. Et le peps, je suis allé chercher dans le gingembre et dans le citron vert. Mmh. Donc l'idée, c'est de couper les figues en morceaux, grossièrement, en 4 on va dire, de rajouter des petits morceaux de gingembre qu'on a là aussi émincés très finement en brunoise, un filet de jus de citron vert et le zeste aussi du citron vert. C'est intéressant de le conserver. Et on fait compoter tout ça tranquillement pendant un quart d'heure, 20 minutes dans une poêle à feu doux. Un tout petit trait de vinaigre de Xérès à la fin pour redonner encore un petit peu de tonus. Et puis voilà ce que vous avez.
C'était vraiment très bon.
Franchement, très bon.
Merci Olivier Pouls qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Gérard Darmon a aimé Gérard Darmon et son nouveau tube.
Elles sont jolies les figues de mon pays.
Gérard Darmon est notre invité jusqu'à
18h. Ça part tout de suite. Putain.
Vous écoutez toujours l'équipée sauvage, 2 heures d'infos haut de gamme et symétriquement d'humour haut de gamme.
Tu connais la différence entre un pullover et une moule?
Oui, on la connaît. Gérard, c'est un film culte, hein.
C'est la grande vadrouille.
Bien, pour tous ces génies qui m'entourent, qui sera élu chroniqueur du jour? Jérôme Lacroix, Ève Roger, Mathieu Charrier ou Jean-Philippe Ballas? La réponse va tomber dans une poignée de secondes, soyez là.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Nous y voilà, c'est le moment de vérité. Pendant 2 heures, les meilleurs journalistes de la rédaction se sont écharpés, insultés. Certains, en pointant du doigt un collègue, n'ont pas hésité à recourir à la calomnie pour influencer vos votes.
Ah, c'est un herpès?
Non, on ne vous influence pas comme ça, je vous connais. Et il est temps de le découvrir. Charrier, vous êtes prêt?
Allez, allons-y à sec.
Très bien, et Baroque, dévoilons le vote du public.
Oui, alors la transition était très très bien faite.
C'est involontaire.
Eh bien justement, Mathieu Charrier, vous remportez les 2 points avec 29% des votes
du public.
Ouais.
Merci public. Alors, 2 points pour Mathieu Charrier. Pour ma part, j'octroie mon point à Jean-Philippe Ballas. Oui, parce que j'adore les Beatles et j'ai trouvé que... Enfin, vous m'avez appris quelque chose et j'étais heureux. Donc,
merci,
je vous donne
Mathieu.
Un point, c'est mon point. Mais ça ne sert à rien puisque ce n'est pas moi qui décide dans cette émission. En effet, c'est l'invité qui a 3 points aujourd'hui, Gérard Darmon. À l'affiche de Vous êtes jeune, vous êtes bon en salle de main avec Josiane Balasco et Patrick Bouchité. Votre voix compte triple, Gérard.
Oui.
J'espère que vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Eh bien,
Homme d'influence, pas d'invité.
Tout m'a intéressé. que ce soit Maradona, que ce soit Mathieu, c'était quoi déjà t'as parlé?
Les bandes annonces.
Les bandes annonces, oui, c'est ce qui m'a le moins intéressé. J'ai bien aimé la chronique parce que je suis très Beatles, ça fond la caisse. Mais comme personne n'en a parlé, je vais donner mes 3 points à Ève.
Ah, merci. Et c'est encore une fois, Ève Roger qui triomphe. Mathieu Charrier s'en va piteusement, piteusement. Il préfère claquer.
Parle bien de mon film. Hein.
Il préfère la critique de votre film demain. C'est pas gagné. Merci à tous les amis. C'est donc Ève Roger qui triomphe dans cette émission et qui reprend la tête. Non, qui reprend rien du tout parce que vous avez 18 points, il en a 23. Mais vous remontez, vous êtes toujours deuxième, vous êtes au top. C'était la 27e édition de l'équipe Sauvage. On remercie vraiment Gérard Darmon d'avoir joué le jeu pendant ces 2 heures.
C'était très agréable.
Merci également à ma Dream Team de la rédaction d'Europe 1 et Varoc, Mathieu Charrier, Ève Roger, Jérôme Lacroix, Jean-Philippe Ballassé. Merci aussi à mon merveilleux Sébastien Bordenave, mes 2 réalisateurs Philippe et Romain ainsi que Claire Dutronc. L'équipe Sauvage revient demain 16h.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe Sauvage. Mathieu Noël.